À la présentation du dialogue entre Congolais ce soir, Jean-Claude Tumba Kamanga.
À la pacification, je disais, un petit problème technique, donc je dis que c'est une initiative de la cellule provinciale d'appui à la pacification du Nord Kivu. Cette cellule avait comme objectif l'identification des sources de conflits dans le Nord Kivu. Quelle est la cause de la plupart des conflits interethniques dans cette province? Quelles recommandations préconisent les participants à cette réunion? Leurs recommandations peuvent-elles s'appliquer au reste du pays? Voilà le thème de cette émission Dialogue entre Congolais. D'après les messages des auditeurs, Dominique Katembo de Butembo croit que les conflits interethniques en Nord Kivu sont dus à la marginalisation de certaines ethnies considérées comme n'étant pas de vrais Congolais. Pour Sola Bitello de Goma en Nord Kivu, les conflits interethniques sont dus à l'égoïsme, la cupidité, la recherche d'enrichissement sans cause et l'analphabétisme. Car il suffit qu'un leader soit en conflit personnel avec quelqu'un d'une autre tribu, il va entraîner ses frères de tribu. Enfin, David Bouanga de Manono, il estime que c'est une bonne initiative que les notables s'y mettent, car une solution qui viendra d'eux sera facile à appliquer. Mwami Ndeze Paul de la chefferie Bouicha, territoire de Rutshuru, Clovis Mouni Ivre, coordinateur de la cellule provinciale de pacification au Nord Kivu, et François Elika, assistant à l'IFACIC, mais qui intervient dans cette émission comme expert de l'ONG hollandaise Bénévolentia. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8999-222.
Réunion des notables et acteurs de la société civile du Nord Kivu pour régler les conflits interethniques. La réunion s'est tenue la semaine dernière sous forme d'un séminaire. C'est une initiative de la cellule provinciale d'appui à la pacification du Nord Kivu. Cette cellule avait comme objectif l'identification des sources de conflits dans le Nord Kivu. Plus de détails dans cet élément que nous propose Bernardin Nyangui, mais rendu par Guy Roger Nyampala.
En territoire de Nyiragongo, les communautés Hutu, Kumu, Tutsi, Baoundé et les Twa ou Pygmées vivent dans une méfiance réciproque. Une situation qui, selon Emmanuel Kasserika, administrateur assistant en charge de l'administration à Nyiragongo, constitue une source de tous les conflits dans ces territoires. À cela s'ajoutent d'autres causes liées à la gestion du patrimoine foncier du territoire. Le concept du séminaire de la semaine passée à Nyiragongo est pour Valeria Easy, analyste au bureau du PNUD en charge des préventions de crise à New York, une expérience qui, dans d'autres régions, a déjà donné des bons résultats. À la clôture, les habitants de Nyiragongo ont initié quelques projets à impact rapide sur l'agriculture, l'élevage et la santé qui, avec l'appui financier de la cellule provinciale d'appui à la pacification, seront exécutés par les représentants de toutes les cinq communautés. Clovis Mounir, coordonnateur de la CPAC Nord Kivu, affirme que ce séminaire d'études des conflits destinés en priorité pour le développement se poursuivront dans les cinq autres territoires de la province. À terme, les projets à long terme devront suivre afin que chacune des communautés trouve sa place.
Parmi les chefs coutumiers participant à ce séminaire de Goma figure le Mwami Sambi Libamukoka. Il est chef coutumier des Batalingi du territoire de Beni et président de la commission d'arbitrage des conflits au Nord Kivu. On écoute le chef Sambi Libamutoka qui donne des précisions sur les causes des conflits coutumiers qu'il a connus dans sa contrée.
Parmi les causes, d'abord, c'est le mauvais règlement des conflits coutumiers par les administratifs. C'est-à-dire, auparavant, c'était les administratifs qui géraient les conflits coutumiers. Alors, à moindre corruption, ils devaient ne pas respecter les règles du jeu de succession au pouvoir. Pour le moment, ce sont les chefs coutumiers eux-mêmes qui sont en train de régler les conflits. Au niveau de Mati et Rutshuru, il y a un problème d'éleveurs et des agriculteurs. Les éleveurs qui avaient des moyens, ils partaient toutefois vers les instances judiciaires et comme ils avaient des moyens, ils faisaient tout pour qu'on puisse éloigner ou peut-être même destituer les chefs coutumiers qui ne voulaient pas céder les terres. Il existe effectivement aussi des conflits de limites entre les entités coutumières. Ces limites-là sont reprises comme des limites administratives.
Clovis Mouni Iré, vous êtes coordinateur de la cellule provinciale de pacification au Nord Kivu. Bonsoir d'abord.
Oui, bonsoir.
Voilà, vous avez suivi l'un des chefs coutumiers qui a parlé dans cette émission. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou des précisions à apporter?
Bon, moi, je crois que j'ai vu d'abord les chefs coutumiers et les chefs Fambili. Pour moi, je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'il a dit, sauf que je crois que les chefs coutumiers, ils sont les acteurs principaux. Vraiment au niveau du terrain pour essayer de résoudre les crises, surtout les conflits entre les communautés, mais aussi entre elles-mêmes, parce qu'au fait des chefs coutumiers de pouvoir coutumier, il y a pas mal de conflits, et je suis très content que la commission provinciale d'arbitrage des conflits coutumiers soit active pour le moment, mais ça nécessiterait une chose, juste de renforcer une formation, vraiment peut-être renforcement des capacités des chefs coutumiers dans les résolutions de conflits et des pouvoirs coutumiers dans la réconciliation des communautés au niveau de la base. C'est ce qu'ils nécessitent pour le moment vraiment pour les chefs coutumiers pour cette commission-là.
Moi, Ndézé, Paul, vous êtes chef de Boucha, un territoire de Rutshuru. Vous pensez que vous avez besoin que vos capacités soient renforcées, comme le souhaite Clovis Mouniré?
Les capacités, il y en a. D'abord, il faut reconnaître que dans les mots qui font le conflit coutumier est une réalité, un problème. Un problème, car il débute les populations qui sont dans les quantités coutumières et diminue automatiquement les nombres de travaux communautaires qui ont une part considérable sur le développement. Cependant aussi, il faut connaître quelles sont les sources des conflits. Les sources des conflits, il y a des sources internes et des sources externes. Dans les sources externes, par exemple, nous pouvons retenir que dans beaucoup de familles et de tentatives de pouvoir coutumier, beaucoup de ces familles-là ont perdu le sens d'honneur. D'un côté, ce sont des frères qui se disputent le pouvoir auprès des femmes et des chiens. De l'autre côté, c'est l'oncle et les neveux qui offrent le même spectacle. Pourtant, dans chaque famille, il y a des dispositions coutumières qui définissent comment la succession doit se faire. Parce que, outre ces dispositions, c'est bafouer la tradition. Mais moi, je pense plutôt qu'il faudra que, dans la loi, si le statut de chef coutumier qui est en chantier, on essaie de définir l'erreur des gardiens de coutume qui doivent servir en premier lieu les arbitres en cas de conflit.
Donc, vous pensez que, dans la loi, votre rôle n'est pas bien défini?
Il faudra que l'erreur soit bien définie dans les statuts de chef coutumier qui est en chantier et le gouvernement veille à son application.
Quel rôle, soyez un peu plus précis, hein. Qu'est-ce que vous pensez que la loi ne vous attribue pas, par exemple, comme prérogative au pouvoir pour mieux exercer vos fonctions de chef coutumier?
C'est-à-dire, suite aux perturbations qu'on constate maintenant dans le pouvoir des chefs coutumiers, en partie, la cause, c'est la légèreté des gardiens de coutume. Alors, pour mettre fin à cette légèreté, il faudra que le pouvoir public s'impose. Et le pouvoir public ne peut s'imposer qu'à travers une loi. Une loi qui doit bien définir, clarifier l'erreur des gardiens de coutume.
François Ilka, qu'est-ce que vous pouvez dire? Le chef propose qu'il faut que la loi puisse être améliorée pour renforcer notamment le rôle des chefs coutumiers.
Il est important de réfléchir par rapport au rôle qu'ils doivent assumer aujourd'hui dans le contexte de la démocratie. Mais en amont, il faut reconnaître aussi, en dehors de ce qui a été déjà avancé comme motivation ou comme cause à la base de toutes les situations de conflictualité au niveau local, ou au niveau intercommunautaire ou interethnique, il faut reconnaître que tout cela s'intègre dans un déficit d'intégration nationale, parce que la coutume, comme les chefs coutumiers, comme les communautés, se retrouvent dans un espace beaucoup plus global, beaucoup plus important, c'est l'État. Et l'État, à travers les politiques de développement, a intérêt à favoriser l'intégration nationale, mais ça n'a pas été le cas. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu l'instrumentalisation politique des différents chefs. On se retrouvait en face d'une situation où la succession était réglée du point de vue coutumier, mais les autorités au niveau de Kinshasa, non seulement elles ne vous reconnaissent pas, mais on va jusqu'à légitimer la personne qui, au fait, du point de vue du droit successoral, n'est pas la personne habilitée à être le chef coutumier. Mmh. Il y a aussi un autre aspect qui me paraît important, c'est la non-implication. Les chefs coutumiers, depuis la colonisation, étaient considérés comme des auxiliaires de l'administration. Mais à cette fonction, on n'a pas donné un contenu opératoire, dans le sens que nous avons observé la non-implication des chefs coutumiers dans l'élaboration de politiques de développement qui pourtant concernent les populations que ces chefs sont en train d'administrer. Donc je crois que...
Vous avez l'impression qu'ils sont un peu à l'écart maintenant.
Tout à fait à l'écart. C'est-à-dire que l'État a eu à se servir d'eux seulement pour des objectifs qui étaient destinés à renforcer le pouvoir d'État, mais pas pour des objectifs qui étaient destinés à favoriser une réelle interaction entre ces chefs et leur population, notamment à travers les activités de développement. Il était important que, par exemple, par rapport à la configuration de l'espace politique, c'est nous qu'on puisse définir la véritable unité politique à partir de laquelle partirait la distribution du pouvoir. Et donc, si on considère que c'est le village ou le clan, il est important qu'on puisse, tout en considérant ces chefs comme des auxiliaires de l'administration, qu'on puisse aussi disponibiliser des moyens pour leur permettre, à travers la grille de lecture qu'ils ont de préoccupations de la population, qu'ils soient associés à la mise en place des politiques pour arriver donc à maîtriser les préoccupations et donc à trouver des solutions aux problèmes de leurs concitoyens.
Okay. Puisque vous parlez de développement, pour revenir au thème, hein, puisque nous parlons des causes, comment régler les causes des conflits interethniques, à la suite de ce séminaire qui s'est tenu à Goma, chef Mwami Ndeze Paul, chef de Bwisha en territoire de Rutshuru, vous avez retenu parmi les pistes de solutions des projets de développement. Est-ce que vous pensez que les projets de développement suffisent pour éviter des conflits entre ethnies?
C'est-à-dire que les projets de développement ne peuvent être réalisés que lorsqu'il n'y a pas de conflit. Mais tant qu'il y aura des conflits, ça sera difficile de réaliser les projets de développement. Mmh. Mais je suis satisfait d'une chose, c'est le fait que nous évoluons dans le même sens, ce qui va toucher ce que moi j'appelle des sources externes du conflit.
C'est quoi ces sources externes du conflit?
Beaucoup de politiciens usent de leur position sociale et cherchent à démanteler le pouvoir coutumier. Ils faussent l'histoire et arrivent à faire inverser les véritables tenants du pouvoir au profit des usurpateurs. Conséquence, procès interminable. Le pouvoir public à son tour, il distribue les arrêtés comme des petits pains sans support de la base. Comprenez donc qu'un chef coutumier qui n'a pas la possibilité d'arriver à Kinshasa perdra son pouvoir. Or, comme je vous ai dit avant, lorsqu'il y a le conflit coutumier, l'élan des travaux communautaires, l'élan des travaux communautaires est stoppé et le développement ne vient pas.
Et pour revenir au Nord Kivu, par exemple, là, on va peut-être poser la question d'abord à Clovis Mouniré, qui est coordinateur de la cellule provinciale de pacification au Nord Kivu. Si vous devriez résumer les causes des conflits interethniques dans le Nord Kivu, c'est quoi exactement?
Les causes, il y a pas mal de causes dans la province. Moi, je peux dire les causes vitales, c'est les problèmes d'espace.
L'espace de terre.
Parce que, par exemple, et pour le moment, et la semaine passée, vous aviez commencé à nous balancer un petit extrait que votre confrère a réalisé sur la télé qui s'est tenue en territoire de Nyiragongo.
Oui.
Je peux vous dire un peu, moi, je crois que, en tout cas, c'est difficile aujourd'hui que quelqu'un arrive et commence à me convaincre comme quoi il y a d'autres causes plus que l'espace.
Donc,
oui, il y a d'autres causes, mais l'espace vraiment de terre occupe peut-être la première place, parce que vous imaginez, par exemple, un territoire de Nyiragongo. Le territoire a 33 km carrés d'espace, d'abord de superficie. Et l'espace occupé par les parcs, c'est 170 km carrés, équivaut à 51% du territoire. Ça, c'est l'espace qui occupe les 170 km carrés.
Donc le parc occupe plus d'espace.
Hein. Oui, oui. Ça, c'est le parc de Virunga. Et l'espace couvert par la lave volcanique, c'est 51 km carrés, équivaut à 15% de 333 km carrés. L'espace disponible maintenant pour la population est de 112 km2, équivaut à 33%.
Donc,
tu imagines?
Ouais.
Donc,
il y a plus d'espace pour le parc et moins pour la population.
L'effectif de la population est de 69 649 habitants. La densité moyenne est de 209 habitants par kilomètre carré.
Donc c'est trop.
Tu t'imagines? Oui, cette densité prédispose déjà à des conflits au sein de la population.
Oui, mais chef Mouamindé, à part la terre, quelles sont les autres causes? Parce qu'il y a, par exemple, un auditeur qui nous a écrit, Mouzalia de Bukavu, lui, parlant des populations d'expression rwandophone, il dit qu'il y a aussi un peu cette velléité de vouloir conquérir des terres appartenant à d'autres ethnies. Vous êtes d'accord avec lui?
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Et le conflit interethnique qu'on appelle souvent le tribalisme, en général, c'est un sentiment humain. Mais lorsqu'il est accompagné de la compétence et de la justice, il est supportable. Au Nord Kivu, le tribalisme ou le conflit interethnique, il est beaucoup plus ressenti au niveau des élites qui cherchent le pouvoir ou qui ont le pouvoir. Mais au niveau de la base, au niveau des paysans que nous gérons, nous ne sentons pas ces conflits comme tels.
Donc, c'est l'élite qui manipule, donc.
Je vous donne un exemple. Si, par exemple, dans une assemblée provinciale, on a plus de 50% des votes, automatiquement, vouloir ou pas le gouverneur sera un autre. Si plus de 50% sont des Tutsis, vouloir ou pas les dirigeants du gouverneur, il sera un Tutsi ou selon la majorité qui se trouve là-bas.
Oui, c'est la majorité qui se trouve là-bas.
Les paysans, dans leur pensée, dans leur vision, ils disent que le pouvoir appartient à telle ethnie. Mais sans pourtant y mettre un accent de chercher à nuire l'autre. Le problème d'espace, ce n'est pas tellement un problème.
Donc vous insistez sur le rôle de l'élite.
On n'arrive pas à le rentabiliser comme il faut.
Oui. François Ilka, je signale que vous intervenez pour le compte de l'ONG Benevolencia. Voilà. Et Clovis Mouni Iré, lui, il parle des terres comme principale cause des conflits interethniques au Nord Kivu. Mais le chef Mouami Ndézé Paul, lui, insiste sur le rôle de l'élite qui, selon lui, tire les ficelles hein, au niveau, alors que la base, pour les populations, au niveau de la base, s'entendent bien, mais c'est souvent l'élite qui manipule et qui est à la base des conflits.
Merci. Lorsque vous suivez l'argumentaire présenté par Clovis, vous vous rendez très compte que la situation telle que décrite donne l'impression qu'elle va être statique parce que le parc ne changera pas. La démographie, elle va être galopante parce que la densité, elle est ce qu'elle est, elle va même accroître. Et donc, nous serons dans une logique d'une conflictualité permanente. Ceci démontre donc la limite de la cause qui est présentée parce qu'elle n'est pas la cause absolue. J'avais bien aimé que Clovis, en la présentant comme cause, puisse dire que c'est l'une des causes. Mais qui ne se limite pas à dire, en tout cas, il est difficile que quelqu'un puisse me convaincre, parce que vous allez vous rendre compte que toute cette problématique se ramène, en fait, au déficit du mode de gestion, mais aussi au déficit d'anticipation et donc de la mise en place des politiques appropriées. On peut permettre à des milliers de personnes de se contenir sur un espace si les types de production développés, si les types d'activités développées, ce sont des activités qui leur donnent la possibilité de construire une économie de paix, une économie communautaire à travers laquelle chaque personne ou chaque ethnie ou encore chaque tribu se retrouve. C'est là qu'il faut rejoindre le point de vue de Mouami en disant que les élites jouent un rôle important. Parce que à quel moment, en fait, le conflit arrive? C'est lorsque, devant l'accès difficile aux terres, on fait croire aux populations que la difficulté est liée au fait qu'il y a sur cet espace des autochtones et des allogènes, donc des étrangers et ceux qui, en principe, méritent, eux, le droit d'exploiter la terre. C'est en ce moment-là que, finalement, l'espace vital, qui au fait était une préoccupation pour tout le monde, devient un bien sectoriel, parce que les gens commencent à se poser la question, finalement, à qui ça appartient? Est-ce que pour que nous puissions jouir totalement de notre terre, il n'est pas bon que nous puissions chasser ceux qui, en principe, sont historiquement pas appropriés pour ou qui ne sont pas
ce qu'il fallait pour exploiter la terre. C'est à ce moment-là qu'on se pose un problème. Donc, pour résoudre un tel problème, il faut aller au-delà de l'espace vital.
On va voir
réfléchir en termes de politique.
Oui, on verra dans la deuxième partie justement comment résoudre ce problème et le voir un peu au niveau national. Mais d'abord, par rapport à ce qu'a dit le chef Mwami Ndézé, est-ce que vous reconnaissez quand même le rôle de l'élite dans les conflits naturels?
Tout à fait. C'est-à-dire que ce que je voudrais démontrer ici, c'est quoi? C'est que Clovis a raison en disant qu'il se pose un problème. Tout à fait raison. Bon, là où il n'a pas raison, c'est quand il dit que c'est absolu. Et moi, m'y ajoute un élément important, c'est la manipulation des élites qui, en fait, arrivent donc à exploiter les difficiles accès comme une motivation politique parce qu'en ce moment-là, ils veulent se présenter aux yeux de leur population respective comme des messies qui proposent des solutions alternatives. C'est à ce moment-là que ça pose problème.
Voilà, réunion des notables et acteurs de la société civile du Nord Kivu pour régler les conflits interethniques. Leurs recommandations peuvent-elles s'appliquer au reste du pays? Ça, on en parle dans la deuxième partie de cette émission.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Évidemment, je vais dire que ce numéro Celtel ne passe pas pour le moment. On va vous donner le numéro Vodacom dans cette émission. Réunion des notables et des acteurs de la société civile du Nord Kivu pour régler les conflits interethniques. Leurs recommandations peuvent-elles s'appliquer au reste du pays? Pour le ministre de l'Intérieur, Denis Kamoumé Numbi, son ministère se conforme à la loi actuelle pour la désignation des chefs coutumiers. Cette loi veut que la désignation se fasse par la commune, c'est-à-dire la consultation des notables. Et les notables donnent leur avis et déterminent qui est habilité à devenir chef coutumier. On écoute Denis Kalume Numbi, ministre de l'Intérieur, au téléphone de Willy Akonda.
Ce qui est arrivé, c'est que dans les territoires qui étaient sous occupation de la rébellion, il y a eu des déstabilisations généralisées de l'ordre établi qui a fait que tous les chefs coutumiers qui n'étaient pas de l'obédience des rebelles étaient chassés ou révoqués. Et maintenant, ça nous a posé beaucoup de problèmes et ce que nous avons fait, c'est mettre en place une commission provinciale chargée de règlement des conflits coutumiers. C'est une commission qui comprend tous les chefs coutumiers et les chefs des divisions provinciales de l'intérieur. Et cette commission circule partout, il y a un conflit, ils établissent les rapports, ils adressent au gouverneur et c'est le gouverneur qui nous transmet ces rapports-là avec ses avis. Et c'est sur base de ces rapports que nous faisons la reconnaissance par arrêté et nous transmettons cet arrêté au gouverneur qui va faire la notification et l'installation du nouveau chef coutumier. S'il y a corruption à ces nouveaux, c'est vraiment regrettable parce que entre chefs coutumiers, je crois que ce sont des notables, des personnes qui incarnent certaines valeurs. Si au niveau des chefs coutumiers que nous avons mis en place, cette commission ne parvient pas à trancher, il y a les cours et tribunaux pour trancher les litiges.
Voilà, chef Ndézé, Paul, vous avez posé un problème par rapport au rôle que doit jouer le pouvoir, les politiques, donc là on peut parler du pouvoir central. Qu'est-ce que vous pouvez dire après avoir suivi le ministre de l'Intérieur? Est-ce que vous avez des garanties?
Oui, c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que le ministre vient de dire. Mais cependant, pour leur faciliter la tâche, pour être beaucoup plus concret, je pense que, en ce qui concerne, par exemple, les familles régnantes, c'est une mise en doute, on peut interroger les archives coloniales. Au sujet des chefs de groupement, on peut interroger les chefs de chefferie ou l'administration des archives de l'histoire à ce moment-là. Il n'y a pas moyen d'arriver à la ficherie comme ça se passe pour le moment. Okay. En tout cas, ce sont des sources fiables pour trancher ce genre de conflit.
Bon, voilà, pour revenir maintenant à ce que vous avez arrêté comme recommandation, comme solution à l'issue de l'atelier, du séminaire atelier que vous avez organisé au Nord Kivu, donc sur la manière de régler les conflits interethniques, on a retenu les projets de développement, mais quels sont les autres projets? C'est peut-être avec vous, Clovis Mouni-Iré.
Écoute, moi, parmi les projets, il y a, à part les projets de... C'est dans le cadre des projets de développement. C'est dans le cadre des projets de développement.
Ouais.
Moi, je crois qu'il y a pas mal de projets. Ouais. Il y a pas mal de projets. Je suis encore dans le territoire de Nyiragongo. En fait, de cette territoire, il n'y a pas d'eau potable. En quelle source d'eau? Donc, en tout cas, c'est presque un désert. Un territoire qui a plus de milliers et de milliers de déplacés. Donc, il vit vraiment, moi je peux dire, il vit dans une situation vraiment très très critique. La priorité peut-être de ce territoire, il fallait quand même qu'on y mette même une addiction d'eau. Parce que le territoire qui a des milliers et des milliers de déplacés, un territoire qui a une densité, une forte densité comme celle-ci, sans d'eau, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a rien. Alors, pour moi, je crois que c'est de compenser juste. Par exemple, je sais que en 2 ou 3 ans, pas même une année, peut-être dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, s'il n'y a pas vraiment de projet de développement qui auront peut-être voulu bien à compenser ce que la population peut aller chercher aussi dans les parcs, parce qu'il y a un conflit maintenant entre la population et l'UFSM.
Vous avez parlé
il y a un problème, il y a un conflit entre la population et l'UFSM.
Donc l'Institut congolais de conservation de la nature.
De conservation de la nature, parce que la grande partie est occupée par les parcs.
Voilà, on a compris donc un projet notamment pour l'eau potable, pour l'accès à l'eau potable.
L'eau potable, mais aussi, il faudrait peut-être multiplier d'autres projets, mettre quand même des projets concrets, des projets d'impact rapide qui pourraient compenser ce que la population cherche dans les parcs. Au lieu de créer les conflits, on cherche qu'on y mette quand même, qu'on arrive à planifier des projets. Et mettre ce projet-là vraiment, si vous voulez, et mettre ce projet immédiatement en action pour que les gens, au lieu d'aller dans les parcs, qu'il y ait une occupation.
Voilà.
À part même les projets, je m'excuse un peu.
Oui,
à part l'eau potable, les hôpitaux, mais aussi il y a d'autres projets que la population pourrait peut-être s'occuper elle-même.
Voilà.
Il y a des projets de recettes de revenus. De faire des petits commerces, des compensations pour que quand même, au lieu qu'il y ait un conflit continuel entre la population et l'UFSM, que la population trouve quelque chose qui pourrait compenser ce qu'ils cherchent dans les parcs.
Oui, ça on a compris. On va voir d'abord ce que pense notre chef coutumier. Il s'agit du sénateur Emery Kalamba. Il est vice-président de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles en charge des 2 provinces du Kasaï. Pour lui, les projets de développement sont parmi les multiples solutions, mais ces projets ne suffisent pas pour résoudre tous les conflits interethniques. On écoute au téléphone de Willy Akonda.
Je pense que si on apportait donc des projets de développement, c'est clair que ça va contribuer à régler certains problèmes qui se posent en fait dans les niveaux ruraux, et notamment entre les chefs coutumiers. Vous savez, la misère et la pauvreté sont les sémences de la division. Si ça c'était donc au Nord Kivu, que ça se passe dans la province orientale, que ça se passe à l'Équateur, que ça se passe au Katanga, que ça se passe au Kasaï. Je crois que les conflits coutumiers ont d'autres causes sur lesquelles il faudra se pencher pour essayer de résoudre le problème. Il y a notamment la politisation à outrance de l'autorité coutumière. Les projets de développement ne sont pas une panacée. C'est-à-dire que ça peut contribuer effectivement à atténuer ces conflits coutumiers.
Voilà, c'était là le chef Emery Kalamba. Pour le numéro, pour ceux qui veulent intervenir, vous pouvez nous envoyer vos réactions au 081 051 57 78 ou encore en appelant au 081 890 66 78. Je rappelle, 081 051 57 78 ou encore appeler au 081 890 66 78. Et vous savez que vous pouvez aussi écrire à dec@radio-okapi.net. On revient vers vous, Mwami Ndezepol. Vous avez suivi d'abord le Emery Kalamba, qui est l'un de vos collègues chefs coutumiers. Il dit que le projet de développement c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il dénonce, il met un accent sur la politisation à outrance des autorités coutumières. Est-ce que vous avez une autre piste de solution à part ça?
Mais en fait, je suis d'accord avec lui parce que le nombre de projets va diminuer la pression de la population sur les aires protégées des parcs. Le nombre de projets va diminuer le nombre de mécontents parce qu'il y en a qui travaillent et social de la population va changer.
Oui, mais là vous parlez, vous restez nombre, chef
de l'église. Le nombre de projets ne sont pas résolus que les conflits continuent.
Oui, sauf que.
Il n'est pas un instant quelqu'un qui a été inversé de son pouvoir. Même si vous multipliez le nombre de projets,
oui.
Tant qu'il n'aura pas encore récupéré son pouvoir, sa pression aussi ne va pas diminuer. Et il ne va pas se faire faire de bruit. Il faut qu'il récupère à tout prix le pouvoir.
Oui, mais est-ce que ce que vous dites, parce que vous vous penchez beaucoup plus sur le Nord Kivu, est-ce que vous pensez que c'est pareil pour les autres provinces, les autres types de conflits qu'on vit dans d'autres provinces du pays? C'est pareil?
Oui, je sais qu'en général, les chefs coutumiers tiennent beaucoup à l'air pouvoir. Il n'y a rien qui peut échanger avec leur pouvoir. Quel que soit le nombre de projets qu'on peut donner, c'est tous les deux qu'on peut donner, mais il y en a très peu qui peuvent accepter d'hypothéquer leur pouvoir pour une raison ou une autre.
Donc, pour vous, il faut d'abord régler le problème de pouvoir des chefs coutumiers.
Oui. Dès que le problème est réglé, la population saura avec qui il faut traiter. Et le développement suivra.
Okay. Alors, François Elika, comment alors protéger ou oui mieux assurer le pouvoir des chefs coutumiers pour que, comme le dit le Moamine des épaules, que on peut initier toutes sortes de projets, mais si le pouvoir du chef coutumier n'est pas protégé, ces projets ne serviront à rien.
Je vous ai dit au début que la problématique relevait plus de l'État que de la responsabilité au niveau local, pour la simple raison que...
L'État, là, vous parlez du pouvoir central,
tout
hein,
fait, dans le contexte congolais. Tout à fait. Déjà, à ce niveau, il faut très sincèrement reconnaître que si on va rester dans la logique où c'est le pouvoir central, c'est-à-dire au niveau de Kinshasa, c'est là qu'il faut prendre l'arrêté pour reconnaître un chef coutumier, je me dis on ne s'en sortira pas.
Il faut arrêter avec ça.
Il faut arrêter avec ça parce que c'est à plus de 2000 kilomètres, vous vous fiez à des personnes dont vous ne connaissez pas très bien les degrés de sincérité et de motivation pour qu'on vous fasse rapport, et puis c'est sur base de ce rapport que vous allez statuer pour prendre votre arrêté. Je crois que ça risque énormément de poser de problèmes parce que entre les 2000 km, c'est même aussi bien le rapport que les chèvres qui font le transport.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ce qu'il faut faire, c'est d'abord de ramener la question de la reconnaissance du chef coutumier au niveau de la province. C'est l'entité la plus
proche. C'est le gouverneur qui connaît, vraiment, qui règle ça.
Encore à ce niveau, le gouverneur prend acte de la situation telle qu'elle est présentée par les notables qualifiés, donc attitrés, en ce qu'on a bien entendu, à travers la commission qui pourrait être mise en place où on impliquerait l'administrateur du territoire. Je crois que ça pourrait facilement régler au travers des archives coloniales qui existent et même l'interrogation de témoins qui existent. Mais je dis ceci par rapport au projet intégrateur. Je crois que je ne comprends pas très bien lorsque nous misons essentiellement sur les conflits ou l'éventuel conflit qu'il y a entre l'ICCN et la population. Il y a d'abord un problème, c'est que nous n'avons pas tous, à mon avis, intériorisé les implications du concept écotourisme. La population qui habite l'espace voit son espace occupé par un projet national qui est le parc. Et la convention du développement prévoit qu'il y a des compensations qu'il faut verser pour que ces compensations servent de ressources financières pour finalement entretenir ou financer les projets de développement. Déjà, à ce niveau, ça n'a pas été fait. Donc, il y a lieu de penser à la mobilisation de ces ressources, parce qu'on ne va pas croire que le projet intégrateur, ils sont importants. Mais déjà, lorsque vous prenez, je suis le chef Émeric Kalamba parler, lorsque vous prenez déjà le cas du Kassai, il a cette expérience, et j'ai compris pourquoi il a pensé que le projet AESE ne suffit pas. Le projet entre les Louba et les Loulou a été réglé uniquement par le dialogue, mais il n'y a pas eu de projet intégrateur dans le sens du développement. Ça signifie que le dialogue est l'une des modalités, mais ce dialogue doit être pris en charge par des personnes qui ont réellement la notabilité, c'est-à-dire qui ont réellement la légitimité auprès de la population. Et donc vous allez comprendre que l'enjeu le plus important, c'est la légitimation réelle du pouvoir coutumier.
Ouais.
Qui est chef coutumier? Ça doit être la personne qui convient, parce qu'il y a de cette personne qui est acceptée par la population. Ouais. Et lorsque cette population sera en face de propositions émises par son chef, elle va certainement adhérer. Ouais. Mais il y a un autre aspect qui est important, c'est l'aspect d'éducation des citoyens.
Ouais.
Il faut que, aussi, au-delà
de toutes ces questions, qu'on puisse mettre en place une véritable pédagogie, une véritable culture pour que finalement les gens intériorisent c'est quoi vivre dans un espace communautaire. Ça c'est important.
Oui, mais puisque vous êtes au Kassai, là, nous avons appris, on a suivi, au Kapi a même couvert ça, c'est un tournoi de paix entre des tribus qui s'en sont entretuées, Bena Mwembia, Bena Shimba. Vous pensez que aussi ce genre d'initiative, ça peut aider à mettre fin à...
En tout cas, pour le cas du Kassai, dans une expérience particulière, ça, il y a eu beaucoup de cas qui ont... Il y a eu même des matchs qui ont été organisés et qui ont finalement été des solutions efficaces à la réconciliation entre le peuple dans certaines tribus. Mais il faut dire que ce n'est pas absolu. Encore qu'au Kassai, ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'on ne sent pas la forte politisation avec des interférences stratégiques importantes comme c'est le cas à l'Est où il y a des minéraux, parce qu'il faut reconnaître aussi que lorsque vous êtes chez
les minéraux,
bien sûr, mais la valence stratégique est beaucoup plus forte à ce niveau qu'au Kassai. Oui. Donc, lorsque vous êtes en face, vous êtes chef coutumier dans un espace où il y a plusieurs ressources et que ces ressources doivent faire l'objet de convoitises de la part des élites qui sont insérés dans les réseaux mafieux ou d'exploitation illégale, c'est sûr que ces élites vont chercher à vous déstabiliser.
Voilà, Willy Konda vient de faire son entrée dans ce studio, c'est pour la réaction des auditeurs. Bonsoir Willy Konda.
Bonsoir Jean-Claude. Nous avons d'abord Luala, du Nia depuis Bukavu au Sud Kivu. Pour résoudre les problèmes du tribalisme à l'Est, il faut associer les ONG et la MONUC. Mirugi Nestor de Kisangani en province orientale estime que la plupart des notables des provinces deviennent des relais de certains politiciens essoufflés, d'où les causes de conflits interethniques. Le problème tribal de l'Est est la conséquence du fait que certains politiciens pensent qu'il faut diviser la base pour mieux régner. C'est ce que pense Mike Bandimi depuis Beni au Nord Kivu.
Merci beaucoup Willy Akonda. On va revenir vers vous, chers invités, pour essayer de répondre aussi à ces préoccupations de nos auditeurs, par exemple avec Luala Dunia depuis Bukavu au Sud Kivu. Lui, il pense que pour résoudre les problèmes de tribalisme à l'est du pays, il faut associer les ONG et la MONUC. Réponse avec vous, chef Moamine des Épaules.
Oui, mais moi je pense que pour résoudre les problèmes de tribalisme, c'est très facile. C'est très facile lorsqu'on a un État fort, on a un État responsable, parce que le tribalisme n'est pas accepté dans notre constitution. Il suffit que toute personne qui pratique le tribalisme soit sanctionnée.
Et comment expliquer que ça se répète encore?
Le tribalisme n'existe pas.
Oui.
C'est parce que le colonialisme avait donné un mot d'ordre qui était suivi par tous. Mais ici, on a l'impression que... l'État n'existe pas, on désobéit, on va en dehors de la Constitution, il n'y a pas de sanctions, c'est tout simplement ça.
Donc vous voulez parler de l'impunité?
L'impunité, exactement.
Donc il faut mettre fin à l'impunité, d'après le chef Ndézé. Clovis Mounire, vous êtes de son avis, de l'avis du Mami Ndézé Paul?
Oui, moi je crois que je suis de même avis que Mami Paul. Moi, je crois qu'on doit mettre fin à l'impunité aussi.
Okay.
Et surtout qu'il y a des coins où l'État vraiment n'existe presque pas.
Tel que, puisque vous êtes en Est.
Et c'est la raison du plus fort.
Un exemple?
Moi, je crois que... il y a les faits fonds. Il y a les faits fonds de Massé Severo Alcal. Je ne dis pas au chef lié, mais il y a des coins où l'État n'existe presque pas. Et l'État doit être fort pour vraiment confirmer sa présence au niveau du terrain.
Voilà.
Mais, je reviens un peu sur... je dois réagir. Je voulais réagir.
Allez-y. Allez-y, réagissez.
L'intervention de son excellence, le ministre de l'État.
Allez-y, même si c'est un peu tard. Moi, allez-y.
Moi, je crois que je peux miser beaucoup, et je mise beaucoup, sur la commission d'arbitrage du pouvoir coutumier dans la province du Nord Kivu. Mais c'est bien que la commission soit là. Et je crois que s'il y a des conflits dans la province, les premiers acteurs à impliquer, il n'y a pas des acteurs plus que les chefs coutumiers. Parce que c'est eux qui connaissent leur population.
Donc encore une fois...
Mais malheureusement, la commission a des moyens.
Ouais.
Moi, je crois que La commission doit être dotée de moyens.
Oui.
Et j'ai commencé à parler des capacités, renforcement des capacités.
Ouais, donc il faut des moyens à la commission.
Donc, il faut des moyens à la commission pour que la commission soit capable à faire à exécuter ses missions.
Voilà,
commission pour le moment où je parle, la commission n'a pas de moyens.
Voilà.
On ne peut pas miser au revenu provincial.
Ouais,
au niveau de la province, elle aussi, ils sont vraiment peut-être coincés par les fonds.
Oui.
Mais Kinshasa dit que là aussi, il n'y a pas de rétrocession. Ils ne sont plus à rétrocession.
Oui.
Et comment la commission va travailler?
Voilà.
Comment on va miser sur la commission qui n'a pas de moyens?
Oui, je pense.
Donc, c'est quoi que le renforcement des capacités est très très important pour cette commission-là.
Voilà, Clovis, je suppose, je pense bien que le ministre de l'Intérieur ou même tous les membres du gouvernement qui suivent vont entendre votre cri de cœur. Mirugi Nestor, on revient vers les réactions des auditeurs avec Mirugi Nestor de Kisangani dans la province orientale. Lui pense que la plupart des notables des provinces deviennent des relais de certains politiciens essoufflés, d'où les causes des conflits interethniques. François Yalika.
Bon, disons que c'est pas absolu. C'est vrai qu'il y a cette politisation. Vous avez suivi, le ministre vous a dit ceux qui n'étaient pas de la rébellion étaient des fédestrés au profit. Donc il y a cette politisation des parts et d'autres, en fait, mais il faut situer le problème au niveau le plus large.
Mmh.
Je ne pense pas qu'au moyen d'un décret, on puisse changer les mentalités des gens. Il est important que l'État lui-même, parce que quand les gens parlent de l'impunité, c'est comme si on considère que l'État, lui, il s'observe comme une situation de pureté avec des gens impurs. Non. L'État lui-même, la conception que nous avons de l'État chez nous, c'est d'abord un État qui, lorsqu'il est dans une situation de discrédit pour avoir pris de mauvaises décisions, se replie sur la tribu du chef pour se renforcer.
Mmh.
Et donc, à ce niveau, il y a
quand vous parlez de l'État, vous pensez à qui, là?
Je parle de pouvoir public, de manière générale, à travers ceux qui animent cet instrument.
Mmh.
Il est important que nous puissions d'abord opérer un changement important au niveau de mentalité, au niveau des structures mentales, pour que nous considérions que l'État, c'est le bien de nous tous.
Mmh.
Lorsque nous allons considérer que l'État, c'est le bien de nous tous, et que nous allons le considérer aussi comme la communauté supérieure, c'est-à-dire ce qui va au-delà de nos tribus, nous allons donc admettre que c'est au niveau de l'État qu'il faut trouver des solutions et non au niveau des républiques identitaires.
Les tribus notamment.
Et vous allez donc vous rendre compte que par rapport à ça, la vision c'est de faire en sorte que l'État agisse à travers des politiques de développement qui sont profitables à tous.
Merci François. Et Lika, on va prendre la dernière réaction de cette émission. Elle vient de Mike Bandini du Nord Kivu. Il est à Beni, pardon. Lui, il pense qu'à l'Est, le problème tribal est surtout la conséquence du fait que certains politiciens pensent qu'il faut diviser la base pour mieux régner. Moamine des épaules.
Oui, moi je reviens à ce que j'avais dit. Hein. Le tribalisme est un sentiment humain, mais qu'il est accompagné de la compétence et de la justice, il est supportable.
Et est-ce que ça veut dire ça veut dire que beaucoup de politiciens du Nord Kivu s'appuient sur ça? Non.
C'est-à-dire, plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque j'ai un poste, je suis responsable et que dans mon service, il y a un poste. Le premier sentiment, ce sera de mettre le lien. Mais à condition qu'il soit capable et qu'il soit juste. Ça, c'est supportable, il servira tout le monde. Mais ce qui est plus grave, c'est de mettre même le lien qui est incompétent et qui n'est pas juste.
C'est pas ça, il n'est pas d'accord avec vous. Allez-y, oui, allez-y.
Je dis, c'est là où le tribalisme devient très mauvais.
Voilà. Ah, parce qu'on tend vers la fin de l'émission, donc c'est bien de rester précis comme ça et court. On va prendre aussi Clovis Mounir là-dessus, sur justement ce que vient de dire le chef Moami Désé. Votre réaction là-dessus?
Moi, je crois que. Je suis parlé de Moami Désé. Moami Désé, il est vraiment. Je suis d'accord avec lui.
Oui.
Et je peux terminer à dire que quand même, on ne peut pas terminer l'émission sans parler du remède aussi.
Oui, oui, mais on n'a plus le temps là, vous avez tout le temps pour parler du remède. Dites-le en une minute, hein, même pas une minute, hein, 10 secondes. Ouais.
Moi je crois qu'on doit parler du remède aussi.
Allez-y, en 10 secondes.
Ça passe par un bon résultat. Je disais ceci, un bon résultat passe par les bonnes analyses qui tiennent compte des spécificités de chaque point.
Merci beaucoup Clovis. Merci Clovis. On va terminer avec François. Lika, tu n'étais pas d'accord avec Moami Désé. En quelques secondes seulement.
Hein. Lorsque vous aurez pris 50 personnes de votre tribu parce qu'elles sont compétentes, alors qu'il y en a 20 qui avaient les mêmes compétences, il faut savoir que le tribalisme aura violé la règle. C'est quoi? C'est que la justice doit être distributive. Je crois que le tribalisme
tribalisme, peu importe la qualification qu'il faut donner, veut dire le sentiment tribal à l'excès. C'est ça que ça veut dire.
Donc il faut éviter. Il faut éviter. Merci, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission Dialogue entre Congolais. Pour la Munker était la mise en onde. Anselme Sissi Mumbere a réalisé pour vous cette émission et Willy Akonda a été à la préparation. Merci à tous de nous avoir suivis.